Ce message vous est proposé gratuitement et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Nous continuons dans notre série que j'ai appelée « Des lois pour vivre, les 10 commandements ». Alors dans le premier message, on s'est posé la question de la place des 10 commandements dans notre vie. On a vu que la loi est toujours en vigueur parce que c'est Dieu qui l'a donnée. On a vu que personne ne pouvait l'appliquer parce qu'on n'en est pas capable et que c'est seulement au travers de Christ qu'on peut vraiment vivre la vie qui plaît à Dieu. Alors après, on a abordé les premiers commandements, on les a pris dans l'ordre. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. On a vu que Dieu est un Dieu unique, qu'il est un Dieu jaloux et il mérite d'être servi. Ensuite, le deuxième commandement, il nous est dit, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. On a vu que aussi Dieu ne prend pas à la légère le fait qu'on utilise son nom et qu'on a besoin nous-mêmes de comprendre que le nom, c'est la personne elle-même. Donc on montre du respect pour le nom de Dieu. On n'utilise pas le nom de Dieu en vain parce que ça affaiblit notre foi. De dire Seigneur à tort et à travers tout le temps, ben au bout d'un moment, on se rend plus compte qu'il est réellement présent. Et on avait vu qu'il y a aussi de la puissance dans le nom de notre Dieu. Le troisième commandement, c'était « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier ». Et là, je voudrais juste apporter encore un petit complément, parce qu'on n'avait pas lu beaucoup du complément de ce verset, de ce commandement, si vous voulez, parce qu'il y a un petit développement. Il nous est dit dans la suite « Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. » Et donc, tu feras tout ton ouvrage. Ça, c'est aussi quelque chose qui est un peu nouveau dans notre société actuelle, parce que nous sommes dans une société de loisirs. Hein, c'est ça qu'on prône. Le plus beau, c'est de pouvoir passer un maximum de temps en loisirs et en vacances. Et ici, il nous est rappelé que notre vie ne prend un sens que lorsque nous sommes dans une activité. Tu feras ton travail, ça ne veut pas dire que tu seras esclave du travail, mais tu feras une activité. Et on se rend compte qu'actuellement, la société de loisirs et d'oisiveté produit beaucoup de troubles, alors qu'il n'est pas dit « sois esclave du travail », mais il n'est pas non plus dit « ne fais rien », parce qu'on sait que ça ne produit pas de bonnes choses. On se rend compte aussi du message qu'on adresse à nos concitoyens quand la société très nationale de la Française des Jeux prône absolument les loisirs parce que vous avez gagné un million, je sais pas quoi. Vous pouvez maintenant ne rien faire et on se moque de ceux qui travaillent ouvertement, publiquement, dans la radio, télévision, etc. Ce qui est quand même pour moi un scandale. Et donc on peut se rappeler que le sabbat, le jour du repos, a été fait pour l'homme et non pas pour nous asservir à des principes religieux. Que ensuite, un jour de repos, pourquoi faire? Ben, c'est écrit dans la Bible afin de le sanctifier, pour que ce soit un jour à part où nous puissions honorer Dieu. Et le dernier point que j'avais développé, c'était d'entrer dans le repos de Dieu. Mieux que un repos tous les 7 jours, c'est de vivre au quotidien le repos de la foi. Et donc, on va continuer aujourd'hui avec notre 4e commandement. Et si vous vous rappelez, pour ceux qui étaient régulièrement présents, nous avions vu qu'il y avait une similitude entre le début du Notre Père et les premiers commandements. Notre Père qui est aux cieux, premier commandement, un Dieu unique, notre Dieu. Ensuite, il est dit que ton nom soit sanctifié. Et il est dit de prendre vraiment comme honorable le nom de Dieu. Et ensuite, il nous est dit que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Et là, il nous est dit d'honorer Dieu en lui accordant un jour à part. Et maintenant, nous sommes au 4e, où il nous est dit « Honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Et dans le Notre Père, nous prions « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. » Donc ça nous parle de nos besoins. Quel est votre besoin? Être heureux et vivre longtemps sur la terre, c'est un besoin ou pas? Normalement, c'est quelque chose que Tout être humain normalement constitué et sain d'esprit recherche, il veut être heureux, il veut vivre longtemps. Personne dit non, moi j'aime une vie abrégée et une vie malheureuse. Non, on recherche ces choses. Donc, il y a maintenant un commandement que l'apôtre Paul rappelle, et on va le voir tout à l'heure dans les épîtres. Il dit que c'est le premier commandement avec une promesse. C'est un commandement qui est accompagné d'une promesse. Alors ce commandement dit ce que nous avons lu. « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Donc ici il est dit « que tes jours se prolongent ». L'explication du petit catéchisme que nous avions abordé, c'est la suivante. « Nous devons craindre et aimer Dieu afin de ne point mépriser ou irriter nos parents et nos supérieurs, mais de les honorer, les servir, leur obéir, avec amour et respect. » Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse parler justement de cette façon d'honorer. Il y a ce qu'on pourrait appeler la culture de l'honneur. Il y a des fois des cultures qui ne sont pas des cultures de l'honneur, comme par exemple, j'en ai déjà eu l'occasion de le dire, mais lorsqu'ils ont voulu évangéliser une certaine population sur une île lointaine, je ne sais plus où c'était, leur culture, c'était la trahison. Ça pourrait nous choquer, mais quand ils ont annoncé l'évangile, ils ont trouvé que c'était Judas qui était le héros de l'histoire. Il avait réussi à tromper son meilleur ami, de faire semblant qu'il était dans son camp pour le trahir. Et ils ont dit que c'est quelque chose de formidable. Alors, ils ont eu vraiment du mal à trouver un point pour annoncer l'évangile dans une culture telle que celle-là. Et donc, il existe une culture aussi qui est une culture de l'honneur. Et on va en parler à plusieurs endroits. Par exemple, la sagesse orientale. Au Japon, il y a un jour par an où c'est le respect des anciens. Donc là, on célèbre d'une façon particulière toutes les personnes âgées. Et on marque beaucoup de respect pour cela. Dans d'autres régions orientales aussi, on trouve le culte des ancêtres. Donc là, ça va un petit peu plus loin. C'est les gens qui sont décédés, des ancêtres, eh bien, on les honore, mais ça va un peu plus loin parce qu'on les considère un peu comme des divinités. Ils restent présents dans la maison pour protéger les gens, etc. Donc là, ça va un peu trop loin pour nous, hein. On peut pas les suivre. Autant on veut honorer et respecter, mais on ne peut pas tomber dans un culte des ancêtres, puisque ça nous amènerait un culte des morts, ce que la parole de Dieu interdit strictement. Parce qu'on se fait toujours tromper. On croit honorer un mort, et en réalité, nous savons qu'il y a là des influences d'autres esprits. Mais ce culte des ancêtres a existé dans beaucoup d'endroits et dans beaucoup de civilisations. À Rome aussi, par exemple, il y avait les ancêtres qui étaient honorés. Et je dois aussi dire, pour beaucoup de choses qui se passent dans la pensée populaire, que ceux qui décèdent, ils ne deviennent pas des étoiles, ni des anges qui veillent sur nous. Ce n'est pas comme ça dans la parole de Dieu, ni dans la réalité. C'est une façon dont certaines personnes n'arrivent pas à faire leur deuil et s'accrochent au fait que ces gens soient toujours là pour les protéger. Mais la Bible nous parle d'honorer nos ancêtres ou nos parents, et s'ils sont décédés, on peut quand même avoir du respect pour eux, mais ils ne veillent pas sur nous. Ça c'est d'autres êtres célestes que Dieu a prévus, des anges, des esprits qui sont au service de ceux qui doivent hériter du salut, c'est dans Hébreux 1, qui veillent sur nous. Et le Seigneur lui-même aussi, par son esprit, veille sur nous. Mais ce ne sont pas alors ces personnes. Et il y a aussi autre chose, en Occident particulièrement, nous avons la culture de l'honneur. Je sais que c'est des fois un petit peu exagéré, un peu romancé, il y a des légendes qui sont rajoutées, mais c'est l'esprit chevaleresque. Donc c'est quand même un développement d'une culture de l'honneur qui a eu lieu. Même si tous n'étaient pas toujours très honorables, mais chaque civilisation, chaque groupe, chaque population et chaque individu a besoin d'un héros. Nous l'avons déjà vu quand nous avions étudié ensemble Hébreux 11, vous pouvez relire les héros de la foi, ceux qui nous ont précédés, qui ont mis leur foi en action et qui ont montré par là comment Dieu s'est servi d'eux. J'aimerais qu'on puisse lire un petit texte que j'ai trouvé là sur cette culture de l'esprit chevaleresque, parce que c'est des gens qui étaient inspirés par Dieu au moins pour ce qu'il voulait mettre en place. Alors voilà ce qu'on disait de l'honneur. Dans le principe de la chevalerie, le chevalier tenait à sa réputation et sa règle était l'honneur. Il était fidèle et loyal. Toutes les relations entre chevaliers reposaient sur la foi et sur le dévouement réciproque. Le chevalier avait un seigneur et parfois des vassaux. Il rendait et recevait l'hommage qui consistait à se reconnaître l'homme de son seigneur, à lui donner sa foi, à lui prêter serment de fidélité. Le premier devoir tenait dans le respect à la foi jurée. La loi par excellence, c'était la foi. L'homme loyal gardait la foi. La loyauté, c'était la fidélité à la parole donnée. Le service en découlait avec ses obligations d'aide et de conseil à son seigneur. Preux voulait donc dire être brave et aussi fidèle. Le chevalier mettait son honneur à être brave, fidèle, loyal. Donc voilà un beau récit et on peut faire ce raisonnement comme l'apôtre Paul l'a fait dans les épîtres. Dans les épîtres aux Philippiens, pour ceux qui se rappellent de ce passage, on peut le lire ensemble au chapitre 4. Il nous est dit la liste de ce qui devrait occuper nos pensées. Ça vous rappelle quelque chose? Lorsque l'apôtre Paul a écrit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, honneur de nouveau, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Quand il a fait cela, il a pris les 7 plus grandes vertus que les sages et philosophes du temps de la Grèce avaient mis comme liste pour dire « Voilà, une personne qui est dans l'excellence, voilà tout ce qui occupe ses pensées. » L'apôtre Paul a rebondi là-dessus pour dire « Mais si eux le font, alors nous, on devrait aussi, en tant que chrétiens, veiller à ça, cette excellence dans notre façon d'être, dans notre façon de penser. » Et c'est le même raisonnement que je veux tenir avec vous. Si des gens ont pu, il y a 500 ans, 600, 700, 800 ans, faire un code d'honneur de la chevalerie, nous, en tant que chrétiens, fidèles à notre Seigneur, avec la foi, nous ne pouvons pas faire mieux, alors ça veut dire qu'on est en deçà de ce que Dieu pourrait attendre de nous. Et ça, nous ne le voulons pas, n'est-ce pas? Alors c'était un peu mon défi pour chacun de vous, de dire voilà ce que nous pourrions vivre. Alors un peu plus loin encore dans un texte par rapport à l'honneur. L'honneur ou d'abord les honneurs, c'est une manifestation extérieure par laquelle on fait connaître le respect, l'estime que l'on a pour quelqu'un. Ceux qui sont constitués en dignité ont droit à l'honneur. L'ambition ne voit dans l'appareil extérieur que l'honneur dont il est le symbole. Alors, pensez par rapport à l'honneur tel qu'il est dans notre société. L'honneur se reçoit par mérite. On ne peut pas l'exiger. On est dans une société où beaucoup de gens disent « Vous devez m'honorer à cause de ma position. Je suis le président, le directeur, le chef, le supérieur, le pasteur, etc. Donc vous devez m'honorer. » Ce n'est pas comme ça que ça se passe. L'honneur se reçoit, mais il n'exige pas. Vous pouvez au contraire dire « Toi, tu as cette fonction, mais tu n'es pas digne d'honneur à cause de ton comportement. Donc, qu'est-ce que tu veux ? Tu ne nous impressionnes pas. » Et au contraire, on devrait de nouveau mettre en valeur ce qui est réellement l'honneur. Dans notre pays, on a la Légion d'honneur. Mais nous sommes tous d'accord que beaucoup de gens qui ont la Légion d'honneur, pour nous, ne méritent pas la Légion d'honneur. Parce que c'est pas l'idée qu'on se fait de l'honneur. On peut, je sais pas, quels seraient vos héros de la France plus ou moins récente. On va pas remonter jusqu'au temps de la chevalerie. Mais pour moi, des personnes qui ont vraiment marqué notre pays, ça pourrait être quelqu'un comme Louis Pasteur, qui a découvert le vaccin de la rage. C'était quelque chose de prodigieux comme avancée pour la santé des gens. Ou des gens qui ont été comme Marie Curie, des scientifiques qui ont fait des progrès, ou des gens au niveau de leur position. Moi, je pense maintenant à un auteur comme Victor Hugo, l'influence qu'il a eue. Bon, on peut trouver, mais on a alors un code d'honneur et de valeur. Mais maintenant, de dire, on donne la Légion d'honneur un chanteur parce qu'il a vendu je ne sais combien de millions d'albums et de disques. On dit oui, ça a permis le rayonnement international de notre pays, mais ce n'est pas mon échelle de valeur. Pourtant, c'est ce que nous sommes en train de faire. On distribue des légions d'honneur, mais ce ne sont pas les gens qui les exigent. C'est d'autres personnes qui disent un tel mériterait la légion d'honneur avec tout ce qu'il a fait. Oui, mais c'est là qu'on va définir qu'est-ce que ça veut dire tout ce qu'on a fait. On a aussi souvent dans les associations, on a un président d'honneur. Il n'exerce plus, mais bon, il a donné pour la vie du club 10, 20, 30 ans de bénévolat. Donc on veut l'honorer. Voilà, c'est le président d'honneur. Mais là, ça peut se comprendre. Mais on est encore loin de ce que je viens de lire du côté chevaleresque et du côté honorable de la personne d'un individu particulier. On a aussi des fois un maire d'honneur, quand quelqu'un était maire d'une ville, bon, il n'est plus en exercice, mais on veut l'honorer à cause du nombre d'années qu'il a passé. Et là, nous avons, concernant l'honneur, encore quelque chose d'intéressant à lire dans la parole de Dieu. Il nous est dit, l'honneur, finalement, c'est chacun de nous qui choisit jusqu'à quel niveau d'honneur nous allons vivre notre vie. Contrairement à l'imagination de certains, on a l'impression que Dieu décide qui va faire quoi. Et là, dans 2 Timothée 2, au verset 20, il nous est dit, « Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, il y en a aussi de bois et de terre. » Et donc, certains ont pensé que Dieu avait choisi qui serait un vase de terre, qui serait un vase d'or, qui serait un vase d'argent. Et au contraire, la Bible nous dit au verset 21, « Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses qui étaient listées au-dessus, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. » Donc, il est dit que chacun d'entre nous, nous pouvons choisir, bien choisir, quelle sera notre position dans la maison de Dieu. Est-ce que vous voulez être un vase d'honneur? Alors, il nous est dit, si vous vous conservez pur, si vous vous abstenez de certaines choses, alors vous serez un vase d'honneur dans la maison de Dieu. Donc, une fois de plus, vous voyez que les critères de la parole de Dieu et la façon de procéder dans le monde, ça ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas de la même façon que cela se passe. Donc, avec cette introduction, je sais qu'on n'a fait que effleurer l'honneur, hein, mais on ne va pas en parler pendant des heures et des heures, il y aurait beaucoup à creuser encore là-dessus, mais vous avez compris quand même que c'est quelque chose qui se développe chez un individu à cause de la qualité de vie qu'il développe, de sa propre personnalité. Et les autres le voient et vont l'honorer à cause de ça. Donc, c'était mon premier point, la culture de l'honneur. Le deuxième, c'est faire preuve de respect. Parce que nous sommes toujours dans ce contexte de « honore ton père et ta mère » et par une façon de le voir plus large, tous ceux qui sont dans des positions d'autorité. Ça peut être dans ton boulot, ça peut être dans de la direction, de la présidence, de gens qui sont dans des positions d'autorité niveau administration civile, politique ou autre. La parole de Dieu nous dit ce que nous devons faire. Dans Romains 13, nous lisons la chose suivante. « Que toute personne, verset 1, soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. » Alors, on pourrait tout de suite dire, oui, mais si le gouvernement n'est pas selon Dieu et s'ils font des choses, il nous a dit, veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien. Il y a certaines circonstances où, en voulant suivre Dieu, c'est lui-même qui te protégera et qui te gardera. Parce qu'en obéissant à la parole, c'est lui qui va t'honorer parce que tu auras honoré sa parole. Ça ne veut pas dire qu'on approuve et ça ne veut pas dire qu'on est toujours d'accord avec toutes les décisions. Et ça veut dire qu'on est lucide aussi. Il peut y avoir des gouvernements qui sont vraiment anti-Dieu, tyranniques, tout ce que vous voulez. Mais le fait que ce ne soit pas nous qui faisions preuve de rébellion, mais qu'on se confie en Dieu, il nous est dit qu'il y a une promesse là. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Si vous croyez ça, vous n'allez pas, si vous avez un cas au tribunal, vous n'allez pas croire tous ces gens sont contre moi, il y a un complot, tout va se liguer. Vous dites que moi je me soumets à Dieu. Il va être mon défenseur. Il va prendre soin de moi. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. On ne peut pas dire que ces choses ont été écrites dans un contexte idéal où tout allait bien. Ça a été écrit aux Romains, dans un contexte d'Empire romain, qui écrasait tous les peuples et les civilisations qui étaient autour pour les englober. Et donc, nous savons que dans le monde antique, tout n'était pas très beau. Mais pourtant, Paul l'a écrit de cette façon. Il a dit parce que c'est la meilleure façon dont vous pouvez vous en sortir. Les révoltes d'esclaves étaient punies par la crucifixion. Donc là, il n'y avait pas beaucoup de possibilités autres que celles qu'il montre ici en disant « Si vous vous soumettez à Dieu, Dieu sera votre défenseur ». Un peu plus loin, il dit « C'est pour cela aussi que vous payez les impôts ». Là encore, ça c'est un sujet épineux, hein, les gens ont toujours l'impression qu'ils payent trop d'impôts, que ça s'est mal utilisé, qu'il y a des gens qui se remplissent les poches. Donc, il nous est dit « Car les magistrats sont des ministres de Dieu ». Le même terme que les pasteurs, évangélistes, docteurs, prophètes, ministres de Dieu, serviteurs de Dieu, rendez compte, entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte et l'honneur à qui vous devez l'honneur. Rendre à chacun ce qui lui est dû. Et ça reprend la pensée qu'avait développée Jésus quand on lui avait montré la pièce et il est resté cette fameuse expression même dans le langage populaire, il faut rendre à César ce qui est à César. Il avait dit de ne pas résister dans certaines circonstances, ne résistez pas, parce qu'il savait, vous êtes dans un contexte de terre occupée par l'ennemi, et donc si vous résistez, ça sera pour votre perte. Donc le conseil de Jésus de tendre l'autre joue, c'était simplement ne résistez pas, parce que ça va être votre perte. Donc ne faites pas la révolte de cette façon. On peut se révolter contre le mal, mais nous avons d'autres armes avec lesquelles nous pouvons nous battre, des armes spirituelles. Et nous avons vu à l'instant, donc, de donner à chacun ce qui lui revient. On a aussi une expression populaire, il est dit « à tout seigneur, tout honneur ». Et donc, quelle est la réalité de cette chose dans notre vie à chacun? Ben, c'est que nous devons observer la hiérarchie dans les honneurs que nous donnons. Comme par exemple, qui devons-nous honorer en premier et par-dessus tout? C'est Dieu lui-même. Et qui serait, d'après vous, les personnes mieux à même de faire cela? Ben, c'est ses serviteurs. Or, nous avons un exemple dans 1 Samuel où le grand sacrificateur Élie, pas le prophète, l'autre, ben, c'est le premier commandement d'honorer Dieu d'abord qu'il n'a pas respecté. Et ça a été la perte pour lui-même, pour sa famille et pour tout ce que ça a comporté. Dans 1 Samuel 2, au verset 27, nous avons un homme de Dieu qui a été envoyé vers le sacrificateur et voilà la parole qu'il a. Ainsi parle l'Éternel, ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'ils étaient en Égypte dans la maison de Pharaon? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter l'éphod devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts pour les enfants d'Israël. Donc il dit tous les honneurs que lui avait reçus d'être choisi comme sacrificateur. Ce n'était pas rien. Et voilà le reproche. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices, mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Le sacrificateur, Élie, n'était pas lui-même coupable, mais c'était ses fils, et lui laissait faire. Et donc, le reproche lui revient. Et voilà la parole. « Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi ?» Donc, une hiérarchie d'honneur qui n'est pas respectée. Il y a des choses que nous devons respecter. Dieu devait être honoré d'abord, et pas les fils d'abord. Il y a des gens, et ça c'est le problème actuel dans notre société, on appelait ça les enfants rois, c'est pas un phénomène nouveau, où les gens veulent tellement faire tous les caprices de leurs enfants, qu'après ils ne savent plus où est l'honneur. Les enfants ne respectent plus, et donc quand ils grandissent, mais il y a des choses qu'ils ne sont pas capables de faire parce qu'ils n'ont pas appris. Ils n'ont pas appris l'honneur. Et donc voilà ce qui est dit. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison, la maison de ton père, marcherait devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Et là, on y revient. J'honorerai ceux qui m'honorent. Quand on honore Dieu, lui-même nous honore. Vous rendez compte? Dieu nous honore. Donc, nous devons apprendre l'honneur. Nous devons apprendre à rendre grâce. L'Eucharistie, ça vient du mot grec, justement, qui veut dire rendre grâce. Dans la façon de rendre grâce, nous reconnaissons certaines choses de la part de Dieu. Donc, honorer les parents, c'est rendre grâce à Dieu pour les parents qu'il nous a donnés. Mais, nous le savons bien, il y a aussi des mauvais parents. Ils n'ont pas bien rempli leur rôle et aucun parent n'est parfait. Alors, faut-il honorer seulement les parents ou rendre grâce selon leur comportement et leurs attitudes? Ben, nous avons la réponse par Jésus à la croix. Il a dit, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Avec ça, tout était réglé. Vous dire, mais non, mais Jésus, ils savent ce qu'ils font. Regarde, ils sont en train de te crucifier. Tout le monde sait que ça, c'est pas bien. Mais la question n'est pas là. Si lui a pu dire ça, ça règle la question pour chacun d'entre nous, de ne pas retenir des choses contre les autres. Bien sûr, eux, ils ont besoin de s'en repentir, changer de mentalité, demander pardon et faire tout ce travail. Mais pour nous, le plus important, c'est d'être reconnaissant selon l'ordre de Dieu pour les parents et les honorer autant que nous pouvons le faire. Ils ne savent pas ce qu'ils font, parce que certains parents n'ont jamais reçu d'amour eux-mêmes. Comment pouvez-vous donner quelque chose que vous n'avez pas reçu? Et donc le phénomène se répète de génération en génération. On sait que des enfants maltraités, des fois, deviennent eux-mêmes des parents qui maltraitent leurs enfants. Donc, ils n'ont pas su donner parce qu'ils n'ont pas reçu. Et c'est que seulement chacun d'entre nous, au contact de Jésus, qui sommes transformés et qui sommes capables d'aimer en premier. On a eu un beau témoignage là, récemment dans les témoignages de CTM de ce parcours de cette dame qui a vécu une enfance malheureuse mais qui était conduite à demander pardon à sa maman qui pourtant était grandement fautive de beaucoup de choses envers elle. Mais ça a été un événement de réconciliation où la gloire de Dieu s'est manifestée et le salut s'est répandu à toute sa famille. Peut-être pas toute entière, mais ça s'est répandu. Nous avons dans la parole de Dieu aussi quelque chose de très important. Dans Luc, Jésus a 12 ans, peut-être vous rappelez cet épisode. Jésus a 12 ans avec ses parents, ils étaient allés à Jérusalem dans le temple et il nous est dit que lorsqu'ils sont repartis, les parents n'ont pas vérifié que Jésus était avec eux dans le voyage du retour. Au bout d'un moment, ils se rendent compte qu'il n'y est pas, ils le cherchent partout, et ils ne le trouvent pas. Ils retournent à Jérusalem, le trouvent dans le temple en train de parler et de poser des questions avec les docteurs de la loi. Et donc, ils disent, mais qu'est-ce que tu as fait là? Il nous est dit, dans Luc 2, verset 48, « Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. » Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. » Donc, ici dans la parole de Dieu, il nous est dit, ses parents. Et nous savons que Joseph n'était pas son père. C'est Dieu qui était son père. Mais la Bible dit, ses parents. Et quand Marie dit, « Ton père et moi, te cherchions. » À ce moment-là, qu'a fait Jésus? Il n'a pas dit, « C'est pas mon père. » Ça, c'est le phénomène de société actuellement. Il y a des familles recomposées pour des questions de veuvage, divorce ou autre. Et vous avez un beau-père ou une belle-mère et vous avez des enfants qui n'honorent pas, qui ne reconnaissent pas. Ils disent, t'es pas mon père, t'as rien à me dire. Mais ici, Jésus n'a pas dit, c'est pas mon père. il a reconnu son père adoptif comme un vrai père. Par contre, il y a des moments dans sa vie où il savait faire la différence, où il a dit, ne saviez-vous pas, pourquoi vous me cherchez? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Et vous avez père avec un petit p, quand il s'agit de mon père et moi te cherchons, et père avec un grand p, le père céleste, quand il s'agit de s'occuper des affaires de son père. Ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait, mais il nous est dit, il descendit avec eux pour aller à Nazareth, il leur était soumis, pas seulement à sa mère, mais aussi à son père adoptif. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Elle avait, c'est vrai, une relation particulière avec Jésus, puisqu'elle avait vécu ce miracle. Mais prenons encore un temps pour penser à Joseph. Quand on pense à cet homme de foi, Joseph était quelqu'un d'extraordinaire. Marie a été choisie, mais lui aussi. Sa fiancée lui annonce « Je suis enceinte ». Ça s'était pas vu souvent qu'il y ait une naissance sans qu'il y ait de père. Donc il pouvait penser « Elle m'a trompé ». Alors, c'est la chose naturelle à penser. Lui, il sait qu'ils n'ont pas couché ensemble. Donc, cet enfant n'est pas de lui. Alors que nous dit la parole de Dieu, il nous dit que c'était un homme de bien. Il n'a pas voulu la blâmer, la diffamer et l'exposer publiquement. Donc, il voulait rompre en secret. Et c'est là qu'il a eu une révélation de la part de Dieu au travers d'un songe. Il dit « Non, cet enfant vient de Dieu ». Mais de dire, cet homme, il a cru cela, il a accompagné sa fiancée dans ces circonstances, il l'a soutenue. Et donc, voyez, c'était quelqu'un qui était aussi digne d'honneur, un homme de foi remarquable. À un autre endroit dans les évangiles, à un moment, on dit, ta mère et tes frères sont là, Jésus. Donc, il devait arrêter tout son travail et courir vers sa famille. Et c'est là que des fois les gens se trompent. Quand il est dit « Honore ton père et ta mère », ça ne veut pas dire « Maintenant, tu ne fais plus face à tes responsabilités » ou « Tu vas faire tout ce qu'ils demandent de toi jusqu'à la fin de tes jours ». Il y a des moments où le service pour Dieu passe avant les relations humaines naturelles. Et Jésus parcourt la foule et dit « Ma mère et mes frères, ce sont tous ceux-là qui sont là et qui écoutent la parole de Dieu. » Donc, il savait remettre les choses en place. Sur la croix, il a une pensée encore pour sa mère. Quand il nous est dit d'honorer ses parents, on voit qu'à un certain moment, on ne parle plus de Joseph. Donc, nous imaginons, parce qu'il y a une espèce de vide de la parole de Dieu, il avait cessé de jouer son rôle dans le plan de Dieu et il a été enlevé. Donc, il a dû décéder, puisque Jésus, en tant que fils aîné, était maintenant celui qui s'occupait de sa mère. Et sur la croix, il honore encore une fois ses parents en disant, maintenant il faut que quelqu'un prenne soin de ma mère. Et il dit à Jean, c'était celui qui était le plus proche du cœur, il dit, voici ta mère. Et donc, il confie à Jean le ministère, la responsabilité de s'occuper de sa maman. Ce qui est, encore une fois, extraordinaire. Et Jésus, nous savons qu'il avait des frères et des sœurs, selon la parole de Dieu, et il n'y a pas eu une passation automatique vers maintenant d'autres frères et sœurs. Bon, alors, si c'est pas le fils aîné, ça sera le deuxième qui va s'en occuper. Non, parce que autrefois, on avait la symbolique du parrainage, c'était, s'il arrive quelque chose aux parents, c'est des gens qui vont prendre soin de l'enfant. Et donc, on voudrait toujours confier nos enfants, s'ils sont pas là, à quelqu'un qui nous est le plus proche, qui va les élever dans la même voie, qui saura les entourer d'amour, qui va en prendre bien soin. Donc, voilà des choses que nous pouvons voir concernant l'honneur dans la famille de Dieu et dans la famille de Jésus en particulier. Et maintenant, ça s'étend aussi à la famille de Dieu par rapport aux parents spirituels. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 6 que même si les Corinthiens ont pu avoir 10 000 maîtres en Christ, pourtant, ils n'ont qu'un seul père, dans le sens père spirituel, et c'était lui, Paul. Il a fondé cette église, il a travaillé parmi eux pendant des années, et il était très déçu que, à peine il soit parti, il se laisse emporter à des choses pas normales, ou qu'il y ait des comportements qui soient pas dignes de Dieu. C'est dans 1 Corinthiens, à un moment donné, il dit cette chose, il dit, moi je suis votre père spirituel. Donc, prenez soin du fait que je vous ai transmis la parole de Dieu. Nous devons donc voir comment Dieu dispose les choses. Dans 1 Corinthiens 12, il nous est aussi dit que Dieu a disposé les choses dans le corps. Il a disposé les ministères, c'est aussi dans Éphésiens 4, 11. Les uns sont apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Toutes ces choses prennent place dans le corps de Christ, tous ces ministères. Et donc nous devons aussi nous situer par rapport à ça, de voir comment Dieu a disposé dans le corps ce que nous devons honorer. Et vous savez, quand vous avez un problème, soit avec votre patron, employeur, supérieur hiérarchique, responsable d'église ou parent dans le naturel, le vrai test de la soumission, nous avons vu que Jésus était soumis, le vrai test de la soumission, c'est le désaccord. Tout le monde dit « je suis soumis » tant que ça va dans l'idée que nous avons aussi. Mais le vrai test, c'est le désaccord. Alors le désaccord, il faut le traiter de cette façon. Tu peux penser quelque chose différemment. Tu peux croire que la décision est mauvaise. Tu peux même le dire à ton chef, patron, parent. Tu peux dire « je suis pas d'accord, on devrait faire autrement, etc. » Mais il y a un moment, c'est lui qui va prendre la décision. Et là, tu peux soit te soumettre, accepter parce que tu as dit que tu n'étais pas d'accord, soit tu peux quitter. Il y a des gens qui, au boulot, n'est peut-être pas toujours d'accord. Mais il y a un moment où on se dit « bon, c'est quand même des choses qui sont secondaires ». On peut s'aider sur les choses secondaires, respecter la position de l'autre et continuer. Ou alors, vous pouvez démissionner. Mais si vous démissionnez, vous allez peut-être retrouver le même phénomène un peu plus loin. Il y a des situations où ça devient invivable, où il faut quitter. Mais cette situation extrême ne se présente pas à chaque fois. C'est pas à chaque fois qu'il y a une crise à l'intérieur d'une famille que chacun va de son côté. On en parle, on peut discuter, on peut même se disputer, et puis on peut se réconcilier, et puis on peut de nouveau avancer ensemble. Et donc, dans la parole de Dieu, il nous est dit que c'est la même chose. Nous avons aussi une situation où, dans l'Ancien Testament, le premier roi d'Israël, Saül, il a été déchu. Au bout d'un moment, il ne marchait plus avec Dieu, il était désobéissant, et nous voyons que, malgré cela, il recherchait à conserver cette position. Et il avait demandé à Samuel de continuer de l'honorer malgré sa désobéissance. Alors, nous trouvons ça dans 1 Samuel 15. Il y avait une guerre et c'était l'habitude du peuple d'Israël avant d'aller à la bataille. On a invoqué l'Éternel pour qu'il soit avec eux et qu'il les aide. Et donc, Samuel avait donné rendez-vous. « Je viendrai, j'offrirai le sacrifice, ce sera la bénédiction sur le peuple d'Israël. » Et voilà que Samuel tardait à venir. Alors Saül a dit, oulala, Samuel n'est pas là, le peuple est en train de se décourager, tout le monde s'en va, c'est moi qui vais offrir le sacrifice. À peine avait-il fini, le prophète Samuel arrive. Il n'était pas en retard, mais il n'était pas là au moment où Saül aurait voulu. Alors il reconnaît, il dit, j'ai péché, j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. 1 Samuel 15, 24. Je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Vous voyez, l'honneur. L'honneur par rapport au peuple était plus fort que l'honneur par rapport à la parole du prophète. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi et j'adorerai l'Éternel. Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel. L'Éternel te rejette afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Samuel lui dit, « L'Éternel déchire aujourd'hui de dessus de toi la royauté d'Israël et la donne à un autre qui est meilleur que toi. » Un peu plus loin, verset 30, Saül dit, « J'ai péché. Maintenant, je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple. En présence d'Israël, reviens avec moi et j'adorerai l'Éternel, ton Dieu. » Il m'a dit, j'adorerai l'Éternel, mon Dieu. Vous voyez la différence? Ton Dieu. Saül n'avait pas cette relation avec Dieu. Il n'avait pas expérimenté qu'il fallait honorer Dieu d'abord. Et honorer Dieu, c'était honorer la parole du prophète, plus que ses craintes et ses propres idées, etc. Et malgré tout ce qu'il venait de vivre, il voulait continuer d'être honoré. Eh ben, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne marche pas. Et malgré tout cela, David a toujours eu une attitude où il a encore, malgré tout, respecté Saül. et a dit « Je ne toucherai pas à loin de l'Éternel ». Il l'a considéré encore comme loin de l'Éternel. Et je termine avec le troisième point qui n'est pas si long, parce qu'on a développé pas mal de choses. Il nous est dit que c'est un commandement avec une promesse. C'est dans Éphésiens 6 que nous lisons cela. C'est un rappel donc du commandement avec des prescriptions un peu comment ça doit se passer dans la famille. On peut lire le tout. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Il y a aussi la partie pour les parents. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Donc c'est un commandement avec une promesse. C'est important ça, de voir que pourquoi on honore, pas juste bêtement, parce que la Bible dit il faut honorer, alors je vais honorer, en ne comprenant pas ce que c'est, comme Saül qui n'avait pas compris qu'est-ce qu'était la nature de l'honneur. Il voulait juste garder sa position et que tout continuait bien pour lui, alors qu'il avait perdu tout contact avec Dieu depuis longtemps. Et il nous est dit, au contraire, parce qu'on comprend qu'il y a une promesse, vivre longtemps dans le pays promis. Deux pages plus haut, dans Éphésiens 3, 14, il nous est dit, à cause de tout cela, à cause de toutes les révélations que l'apôtre Paul a eu et qu'il partage aux Éphésiens, il dit « Je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. » Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom du Père. Donc, honorer les parents, c'est aussi comprendre l'ordre de l'univers, comment Dieu a conçu les choses. Vivre heureux et longtemps, c'est la promesse, je ne sais pas si vous le connaissez bien, mais c'est la promesse aussi du psaume 91. Il nous est dit, dans certaines circonstances, on peut expérimenter cette bénédiction. Psaume 91, à partir du verset 14, c'est Dieu qui parle, parce que de temps en temps, c'est un homme, et là, c'est Dieu qui parle. Il dit, concernant chacun de nous, si vous voulez, vous vous mettez à la place. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. La longévité a toujours été une bénédiction. Nous avons maintenant un nouveau problème dans notre société parce qu'on a réussi par la science et la médecine à prolonger les jours des gens, mais pas forcément la qualité de leur vieillesse. Et donc, ça pose un nouveau problème parce que les gens, certaines personnes ne le voient pas comme ça, ils ne voient pas comme une bénédiction d'avoir une longévité. Parce que la longévité est une bénédiction dans la mesure où vous vivez de plus en plus cette proximité avec Dieu jusqu'au jour du départ où vous dites « ça y est, je rentre à la maison, maintenant votre Dieu va m'accueillir » et pas parce que vous ne serez plus conscient du tout de votre environnement. Nous avons des choses meilleures, la Bible nous dit, nous avons des promesses meilleures et de meilleures choses qui nous sont annoncées. Donc, rassasié de jour, satisfait. L'apôtre Jacques dit dans sa lettre, rappelez-vous de la patience de Job et de la fin que Dieu lui accorda. Dernièrement, j'ai relu le livre de Job et on a l'impression qu'une bonne partie du livre de Job, c'est que sa vie a été vraiment une suite de souffrances et une vie tellement difficile, mais réellement, son épreuve, aussi difficile qu'elle ait été, a été une épreuve relativement brève de son existence. Et à la fin, il nous est dit, dans Job 42, 10, « L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis. L'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. » Il y a la description de tout ce qu'il a reçu, qu'il a eu encore des enfants, des fils, des filles, que c'était les plus belles femmes de tout le pays. Et au verset 16, « Job vécut après cela 140 ans, et il vit ses fils. » Et les fils de ses fils, jusqu'à la quatrième génération. Et Job mourut, âgé et rassasié de jours. Voilà, donc rappelez-vous de la patience de Job et de la fin que Dieu lui a accordée. Notre destinée, elle est au ciel, ok, mais ça ne signifie pas qu'il n'y a rien pour nous ici-bas. Et la parole de Dieu nous promet que avec la foi, on peut avoir la foi pour l'éternité et aussi la foi pour notre quotidien. Amen.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.